Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, on est de retour sur le Salon des maires Porte de Versailles et je suis accompagné de la légende vivante Sylvain Lévy-Valency.
Non mais il me fait le coup à chaque fois. Comment ça va Grégoire ?
Ça va très bien Sylvain et vous ?
Oui, écoutez, mieux ça serait de la gourmandise. Mais du coup, gourmand je suis puisqu'on a justement
sur le plateau. On a peut-être ce qui se fait de mieux sur le plateau. Michael Lenezet, président du directoire de la SOFIAP, merci beaucoup.
Merci beaucoup et c'est sympa comme introduction.
Ouais, oui, c'est pas mal. Hein.
Ah oui.
On commence fort. Michael Lenezet, donc vous êtes président du directoire de la SOFIAP, une filiale de la Banque Postale et de la SNCF qui s'engage pour le pouvoir d'achat immobilier des Français.
Exactement, on fait ce qu'on appelle du prêt subventionné, mais je pense qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure,
oui.
Puisqu'on aide des entreprises à mettre en place des politiques de logement pour leurs salariés.
Alors justement, le logement, Michael, on a une tendance qui va plutôt à l'amélioration en termes de pouvoir d'achat. Les Français reviennent sur le marché du logement, les Français achètent de nouveau.
Et les banques reprêtent.
Vous
reprêtez.
On reprête déjà depuis un moment, hein, depuis l'été 2023 pratiquement, on commence à reprêter de façon massive. Le sujet, c'est l'évolution des taux d'intérêt.
Ouais.
En fait, ce qui a bloqué le marché, puisqu'aujourd'hui, il faut avoir en tête que 1% de taux d'intérêt supplémentaire, c'est quasiment 10% de pouvoir d'achat qui s'envole.
Ouais.
Donc voilà, donc le sujet, c'est plutôt le marché. Après, quand on parle de retour du marché, c'est un frémissement.
Oui.
Puisque quand même, les statistiques sont ce qu'elles disent, elles parlent.
Oui, mais on voit la lumière au bout du tunnel.
Exactement.
En tout cas.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on attend quand même pour la fin de l'année, c'est 800 000 à peu près transactions sur l'ancien. Je rappelle qu'il y a encore 2 ans, on était à plus de 1 million. On était même jusqu'à 1,2 million de transactions.
Ce qui était exceptionnel.
Et quand on regarde le marché du neuf, pareil, les promoteurs font état du fait qu'aujourd'hui, on va sans doute atterrir sous les 250 000 livraisons.
Exactement.
Ce qui est quasiment 35% de moins que d'habitude. Voilà, donc on a un marché qui s'étend.
C'est une catastrophe pour le logement neuf. C'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet parce que le contexte autour de ça, c'est le besoin de logement.
Ouais.
Aujourd'hui, on a un paysage sociétal qui fait qu'aujourd'hui, on a 25% de familles monoparentales. Donc monoparentale, ça veut dire quoi ? Bah, y a un appartement pour maman et un appartement pour papa qui permet de gérer la famille. Donc ça veut dire qu'il y a deux fois plus de demande. Et puis aussi, on a un autre phénomène qui arrive très très fort, c'est le vieillissement de la population.
Exactement. Donc le logement aidé.
Et donc le logement aidé. Et surtout, le fait de dire que les gens gardent très longtemps leur logement et que du coup, la liquidité du logement en accession se limite à pas grand chose.
Et dans l'arsenal finalement des aides à la pierre, si on peut dire les choses comme ça, finalement votre solution est une solution qui finalement va sur un segment qui est celui du rapprochement entre l'emploi et le logement. Est-ce qu'on peut dire que vous participez finalement à la vitalité économique d'un territoire lorsqu'on est dans des incapacités chroniques de recrutement? On voit, il y a beaucoup de PME dans les territoires qui renoncent à se développer ou à prendre des commandes parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas le recrutement faute de logement.
Exactement. Et c'est très fort parce que quand vous regardez tous les sondages, ces PME, etc., aujourd'hui, c'est quasiment 25% des emplois non couverts faute de logement à proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet de préoccupation pour les entreprises puisque le premier sujet de préoccupation de l'entreprise, c'est de pouvoir se développer et donc d'avoir des bras pour travailler. Et donc le sujet, c'est quand vous n'avez pas de main-d'œuvre disponible sur place et que vous avez du mal à recruter. Il y a des départements aujourd'hui ou des régions entières qui sont quand même un peu tendues. Je pense à la Vendée, je pense à des choses comme ça où on voit bien la tension que ça crée sur le marché. C'est une difficulté. Donc pour être pragmatique, qu'est-ce que font les entreprises ? Soit elles construisent des logements elles-mêmes, mais ce n'est pas tout à fait leur objet social. Ce n'est pas le rôle d'une entreprise de construire des logements et ce n'est pas le bilan et c'est cher et ce n'est pas le sujet. Et surtout, c'est très bien pour avoir des salariés qui sont avec vous, mais quand ils veulent quitter l'entreprise, c'est une difficulté qui arrive. Qu'est-ce que vous faites du logement qui est occupé aujourd'hui par un salarié qui est parti ? Et d'ailleurs, on le voit bien, toutes les foncières aujourd'hui de grandes entreprises que sont RATP, SNCF, dans ces logements sociaux qui sont portés par des foncières dans ces entreprises-là, il n'y a que quasiment moins de 30% des logements qui sont occupés par des actifs de l'entreprise.
Non.
Vous interrogez la directrice de la RATP, elle vous dira
c'est
que 27%...
C'est la stat vous avez.
Exactement. Et c'est vrai chez SNCF et c'est vrai chez RATP. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui travaillent pendant quelques temps dans ces sociétés et quand ils partent, difficulté de les mettre dehors.
Et ils conservent les logements.
Et ils conservent les logements.
Et donc
c'est pour ça que l'entreprise, sa préoccupation première, c'est surtout pas de créer ce lien de dépendance. C'est un vrai lien de dépendance.
C'est un métier
de gérer, parce que derrière, vous faites de la location immobilière, vous faites de la gestion. c'est pas votre boulot. C'est l'entreprise qui fabrique des boulons ou des brioches en Vendée, elle n'a pas vocation à traiter du logement. Le sujet, c'est de l'externaliser. Donc nous, ce qu'on permet de faire, c'est d'externaliser cette gestion-là. Puisqu'en fait, on dit à l'entreprise, vous laissez libre vos salariés d'acheter ce qu'ils veulent, où ils veulent. Après, vous pouvez fixer des règles, il y a un terrain de jeu, vous pouvez fixer les règles du jeu que vous fixez vous-même. Pour autant, vous ne portez pas le risque, vous ne portez pas le bien. Et le jour où le salarié quitte l'entreprise, ben, l'aide s'arrête de façon automatique parce que c'est lié au contrat de travail. Et du coup, c'est un mécanisme assez simple et assez universel en fait, dans son implication.
Le coût pour l'entreprise, est-ce qu'il est prohibitif ou pas ? Ou est-ce qu'il s'intègre assez facilement dans une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences ?
Alors, vous savez que les entreprises aujourd'hui, elles ont des budgets, d'évolution annuelle des salaires. Donc, ce que font les entreprises qui sont nos partenaires souvent, c'est qu'elles prennent une partie de cette enveloppe pour faire une politique de logement. Donc déjà, ça permet de résoudre le problème de l'équation budgétaire. Après, quand on parle d'aide en direct aux salariés, si vous prenez 1% de 100 000 euros sur 20 ans, ça vous coûte 15 000 euros sur 20 ans. Donc en fait, ça veut dire un peu moins de 1 000 euros par salarié.
Donc c'est même pas un salaire par an, quoi.
C'est même pas un salaire par an. Par contre, le fait de prendre 1% pour 100 000 euros sur 20 ans, c'est 10% de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc je peux acheter un bien, plutôt de l'acheter de 100 000, j'achète pour 110 000.
C'est un vrai moyen de fidéliser les clients.
Donc je pourrais, par exemple, dans mes critères de recrutement, mes arguments de recrutement, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est dans l'argument pour convaincre ceux qu'on veut embaucher. Hein. C'est incroyable comme les choses évoluent. À mon époque, c'était un peu différent. Enfin, bref, je dis ça, mais je dis rien. Mais
il y a longtemps,
dans l'intégration, on pourrait améliorer votre pouvoir d'achat dans le processus de recrutement parce qu'on subventionnera l'acquisition de votre résidence principale.
Exactement.
Si on n'est pas primo-accédant, qu'on est secondo-accédant...
C'est l'entreprise qui décide. En fait, la règle aujourd'hui de ce que fait Sofiat, hein, c'est l'entreprise qui fixe la règle avec nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas un monde réglementé. C'est-à-dire que l'entreprise décide des critères, des populations qu'elle veut servir, des structures. Si je vous donne juste quelques exemples, exemples d'entreprises qui sont basées dans le sud de la France, c'est je fais une politique différente si vous gagnez moins de 39 000 ou plus de 39 000.
Ah
donc
bon,
je prends 0,75 si vous gagnez plus de 39 000 et 1% si vous gagnez moins de 39
000. Oui, l'entreprise aménage après comme elle le souhaite.
Exactement. Mmh. Et du coup, fixe les règles pour faire l'équilibre.
Et dans l'absolu, je peux tout prendre ?
Vous pouvez tout prendre.
100% des intérêts ?
Bien sûr.
Comment ça se passe techniquement ?
Techniquement, c'est simplement...
Comment on fait ? Vous faites une facture à l'entreprise ?
On fait une facture aux entreprises.
Avec la TVA ?
Pas la TVA, il n'y a pas de TVA là-dessus, mais on ferait une facture et l'entreprise, évidemment, le déduit de son impôt sur les sociétés déjà, donc, et derrière, retranche... Fin...
C'est une facture annuelle ?
Non, c'est mensuel.
D'accord.
C'est intégré dans les bulletins de salaire des collaborateurs.
Parce que ça, c'est prosaïque, mais finalement, ça répond aux questions de l'entreprise. Donc, comment ça se passe ? Le gars, il a son crédit, c'est vous qui prêtez. Hein.
C'est nous qui prêtons.
Vous êtes la banque prêteuse.
Oui.
Donc ça facilite vachement, en fait.
On fait la totalité du financement.
Non, mais ça facilite par rapport à l'octroi du crédit, mais est-ce que vous avez les mêmes critères de ratio, de scoring que les autres banques ?
On a strictement les mêmes, puisqu'on a un métier dans le monde de la finance très réglementé. Hein. Donc on a les normes de HCSF à 35% d'endettement, etc. On a juste une particularité par rapport à une banque, c'est que nous ne sommes pas une banque. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prélève, et ça c'est un argument fort, on prélève l'échéance de notre crédit sur le compte qui nous est désigné. Donc vous pouvez être client, vous êtes salarié d'une entreprise n'importe laquelle, vous êtes client de Caisse d'épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole, on prélève là où vous êtes client.
Ah, vous voulez dire que vous n'avez pas une
banque de dépôt ? Donc il n'y a pas une obligation de domiciliation.
D'accord. Vous n'êtes pas une banque de dépôt ou de détail.
Non.
D'accord.
On fait que du financement immobilier.
Peut-être que du financement. C'est pratique. Et donc, du coup, vous prélevez la traite ou l'échéance du crédit que vous avez octroyé. C'est vachement plus simple. Et à côté de ça, vous adressez tous les mois une facture.
Exactement.
Au service RH de l'entreprise.
Et donc, le service RH, quand il reçoit la facture, évidemment, paye la facture, mais surtout, doit nous prévenir si le salarié n'est plus dans les effectifs. Puisque, en fait, à partir du moment où le salarié n'est plus dans les effectifs, on arrête la facturation et on recalcule pour facturer le salarié.
Donc, le salarié, qu'on comprenne bien, quand il quitte l'entreprise, là où il payait 1 par rapport à 3, par exemple, il repère à 3.
Oui, exactement.
Et surtout une entreprise qui veut reconventionner avec la Sofiap, on peut ?
On peut. Tout est possible, en fait.
Il y aura une portabilité.
C'est une portabilité, ou en tout cas, une possibilité de reprendre. Après, on n'a pas encore eu le cas, pour être clair, mais ça, tout est possible. En fait, c'est juste une question de savoir quel est l'objectif de l'entreprise de dire finalement, est-ce que je veux aider des primo-accédants, donc donner le prix à l'étrier pour les trucs, ou est-ce que je veux du renouvellement?
Et Mickaël, il n'y a pas de taille minimale d'entreprise pour venir vous voir?
Non.
On peut avoir 5 salariés comme on peut en avoir 500, 1000, 1500.
La plus petite entreprise qu'on a aujourd'hui en partenaire, elle a 15 salariés.
Ouais.
Elle travaille dans la data.
Oui, il faut quand même avoir une taille moyenne.
15, c'est...
Non, mais 15, ça fait quoi? Ça fait un crédit tous les deux ans.
Ouais, c'est ça. En fait, ouais. Le truc, c'est qu'on prend, on fait, on met en accord. Simplement, il faut juste se dire que la réalité de rotation des biens immobiliers est très faible, puisque quand on est dans une vie courante, on va faire 2 investissements dans sa vie.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'on va faire 0, quelque chose de dossier par an. Donc pas grand intérêt. Mais pour autant, l'entreprise qui vient, on le traite.
Bah, vous devriez être numéro 1 de l'accession à la propriété via les entreprises. Moi, je trouve que c'est une super...
En tout cas, c'est un levier pour l'entreprise,
c'est ça. Non, mais c'est surtout un levier parce que c'est quand même dramatique. J'étais il n'y a pas longtemps dans le Languedoc. Je vous en ai parlé d'ailleurs en antenne. Des entreprises qui disent, moi, je freine mon développement, j'arrive pas à recruter. Et vous avez vu d'ailleurs dans les du côté du Finistère, dans des zones un peu balnéaires, on a des entreprises, notamment des armateurs, des personnes qui ont beaucoup de chantiers, qui ont du boulot, du côté de Saint-Nazaire également, qui ont du mal à recruter parce qu'il n'y a pas de proximité avec le logement. On avait même un maire de France hier qui a construit carrément du logement pour pouvoir accueillir des nouveaux salariés.
Exactement.
Mais quel est le regard de l'État sur ce dispositif? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que regard est plutôt bienveillant de voir que l'entreprise prend le relais un peu?
Alors, il devrait l'être.
Alors, pour être transparent avec vous, on a beaucoup de rencontres politiques depuis déjà plusieurs mois pour faire que le dispositif soit encore plus attractif et plus développé, puisque c'est l'objectif. Donc, on a plutôt un regard bienveillant, on va dire, du ministère du Logement, du ministère du Travail. Le sujet maintenant, c'est l'état politique dans lequel on est, qui parfois freine un peu les décisions sur pas mal de sujets. Donc voilà, on a des discussions ouvertes. Pour l'anecdote, sans vous dire qui je vais voir, mais demain je vais à un rendez-vous à Bercy. Voilà, c'est le sujet du moment, parce qu'on voit bien que le sujet emploi-logement, c'est un sujet de plein emploi. Et quand l'État veut du plein emploi, il faut qu'on traite ce sujet-là, sinon on a un problème.
C'est sûr que le jour où votre dispositif sera éligible à l'exonération de charges patronales, charges sociales, ça serait génial.
Ah, c'est un vrai coup de pouce financier.
Et puis ça fait partie du dispositif d'épargne salariale qui permet de capitaliser. Je trouve ça extrêmement ingénieux pour résoudre cette équation, effectivement, à la fois de l'accès à la propriété, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est que je prends 1%, je gagne 10% de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, mine de rien, ça resolvabilise vachement de dossiers. Et puis ça accroît également le taux de fidélité à l'entreprise, parce que bien évidemment il y a un lien entre la détention à ce prix-là par rapport à la durée de vie de l'entreprise.
Sur quoi je veux insister quand même, sur le sujet, c'est que première chose, le logement, quoi qu'on dise, c'est un bien de première nécessité pour tout le monde. Ça, c'est hyper important à dire. Et c'est surtout
le premier poste de dépense
des premiers postes de dépense des Français, parce qu'on a l'air de 30%, ça évolue d'ailleurs assez dramatiquement dans le sujet. Et puis il ne faut pas oublier que depuis les années 50, les logements ont fait x10 en termes de coûts au mètre carré versus les salaires. Et donc le sujet, c'est le décalage entre les salaires et le prix du mètre.
Et donc
il faut le rattraper.
Et le prix de l'immobilier. Oui.
Et c'est ce qui provoque la crise d'aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, pour le rattraper avec ce mécanisme-là. Mais par rapport au niveau des prix, ça restera toujours plus élevé.
Et puis, sans faire de lyrisme absolu, mais le sujet bien de première nécessité. Et aujourd'hui, le logement devient la pierre angulaire un peu de pas mal de sujets. C'est un sujet d'équilibre sociétal. Parce que quand on est propriétaire, on se protège de pas mal d'aléas. On l'a vécu très fortement au moment du Covid, où c'était le repli dans le logement. Mais c'est aussi, ça traite tous les sujets de retraite, de vieillesse. Et donc c'est extrêmement important.
C'est un projet de vie, le logement.
C'est un projet de vie, exactement.
Très bien, merci beaucoup Mickaël Lenezet. Je rappelle qu'on aura plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre collection Entreprises et Habitat. On a une quatrième émission à venir. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.
Je vous en prie.
Et puis on vous souhaite un très bon Salon des Maires, Mickaël.
Un combat digne d'être mené, c'est celui de l'exonération des charges. Je crois beaucoup à cela pour l'entrepreneuriat. Et comme il va y avoir rendez-vous aux urnes bientôt...
Ouais. Mais Sylvain, je ne crois pas à exonération totale. Je crois plutôt alignement sur l'épargne salariale.
Bah, très bien, mais très bien. Les entrepreneurs seront très contents.
Ils auront deux leviers, l'épargne salariale et le logement.
Allez, aucun souci.
Parfait, on se bat pour ces deux leviers. Merci beaucoup et
merci.
À très vite.
Merci à vous.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.